voix nue. Cette semaine, rencontre de Clémence Boulouk avec Toni Morrison, enregistrée en 2006. Toni Morrison, première femme afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1993, nous a quittés le 6 août 2019. Célèbre pour ses romans Beloved, Jazz, elle revenait en novembre 2006 sur la mémoire qu'elle avait reçue en héritage dans ses entretiens exceptionnels que nous réécoutons cette semaine.
Bonjour, cinquième et dernier de nos entretiens avec Toni Morrison. Aujourd'hui, Antise, ombre, blancheur et noirceur dans la littérature américaine. Comment écrire l'autre entre paradis et enfer. Cette violence se retourne et elle crée un rapport particulier d'une certaine manière au langage. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez voulu montrer au Louvre avec les poètes du slam?
I'm curious because I'm aware of the impact of rap music and hip hop in the States. Its origins, the impact is worldwide. It's young people's music. Young people's music is always despised and hated as corrupt, violent, sexual, what have you. Or not. I mean, it doesn't have to be violent. Mozart was despised as a kid when he was composing. Too many notes, too much, too fast. Jazz was the worst music you could hear. It was banned. Blues was banned. Rock music is banned. All young people's music is banned until it's not, until it becomes the music of the land. And the same thing happened with hip-hop. So here, I assume there's a relationship because they're young, because they feel marginalized, because they're speaking and creating poetry and music that says what no one else is saying, and they're talking to each other. So that, to me, is very much like what goes on in the States. But more importantly to me is that, despised as it is, young people's music, they change the language. And some people are afraid of that. I mean, obviously. Oh my God. They're using these other words, or they're mangling English, or they're mangling American, or they're mangling Turkish, for that example. Mm-hmm. You know, all over the world, there are these people, young people, who are doing something else. So I was interested in the newness, the unpoliced language, language without the cops, which I assume is what's going on in slam poetry.
J'ai une grande curiosité. Pour cette forme d'art, j'ai conscience de la force et de l'influence du rap et du hip-hop aux États-Unis. En fait, c'est une musique qui a un écho dans le monde entier parce que c'est devenu la musique des jeunes. Et la musique des jeunes est généralement méprisée, détestée. On la juge corrompue, violente, trop sexuelle. Ou bien, parfois, par exemple, Mozart était méprisé quand il composait enfant, on lui reprochait d'écrire trop de notes, d'écrire une musique qui allait trop rapidement. Le jazz aussi était considéré comme une musique honni qui était interdite. Le blues, le rock ont été interdits jusqu'à ce qu'il ne le soit plus et qu'il devienne complètement accepté. Il en va de même avec le hip-hop. Donc là, oui, je suppose que c'est là la relation. C'est parce qu'ils sont jeunes, ils se sentent marginalisés, ces jeunes slammeurs, et ils se mettent à parler, à prendre la parole, à créer de la poésie et de la musique qui raconte ce que personne d'autre n'a raconté et qui leur permet de se parler entre eux. Donc pour moi, c'est ça qui se passe aux États-Unis ou ailleurs. Mais plus important encore, bien qu'elle soit méprisée ou détestée, cette musique des jeunes, eh bien ces jeunes parviennent à modifier la langue, le langage. Et ça fait peur aux gens, du moins à certains. Ils se disent « Oh là là, mon Dieu, De quels mots se servent-ils? Ils abîment l'anglais, ils abîment la langue américaine, ils abîment le turc. Enfin, partout dans le monde, on voit émerger ces jeunes qui font quelque chose de nouveau, d'inédit. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette nouveauté d'un langage non policé, un langage sans flic. Et j'imagine que c'est ça, la poésie du slam.
Le langage et la poésie, c'est aussi une musique. On a le sentiment que c'est un langage qui peut guérir, c'est ce langage-là que vous défendez. Mais en guérissant, ça pourrait quasiment être un poison dans l'œil le plus bleu. L'héroïne se rend compte que la détresse colorée par la voix de sa mère ôtait toute souffrance aux mots et lui laissait la conviction que la douleur n'était pas seulement supportable, mais douce aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une capacité de la musique de devenir une illusion? Est-ce que la musique n'est pas une consolation dangereuse, en fait?
It's agency, like laughter. You take control of your emotions and your life. You articulate them. You put them in their place so that they do not overwhelm and destroy you. It's taking it in your own hands. Language and music can do that.
Je crois qu'en fait, c'est un truchement, un mécanisme, comme le rire. On arrive à maîtriser nos émotions, notre vie, on les articule et on les met dans un petit endroit de sorte qu'ils ne nous envahissent pas et qu'ils ne nous détruisent pas. C'est reprendre en main sa destinée. Et je crois que le langage et la musique y parviennent, nous y aident.
C'est quelque chose qui est très présent dans le blues, Toni Morrison.
Very much so. The difference between blues and country music is country music sounds whining to me, always complaining. Blues is an acknowledgement of a difficult sorrow, but there's a sense of freedom in it, and nobody regrets that terrible, terrible love that they had. It was empowering somehow. So that is frequently in much music where it makes you feel stronger, even though you're describing truly miserable, you know, soul-destroying things. But the art form itself can make you feel more ownership of life and not so whimsically treated. You know, by forces.
Absolument. La différence entre le blues et la musique country, par exemple, la country music, pour moi, c'est un peu pleurnichard, ça se plaint, ça geint. Alors que dans le blues, on reconnaît la souffrance du chagrin, mais il porte aussi un sentiment de liberté, le blues. Et en fait, les hommes qui chantent ne regrettent pas cet amour qui les a détruits parce qu'ils prenaient trop possession d'eux. Et il se rebelle un petit peu contre cela. Et le blues, ça vous aide à devenir plus fort, je crois. Alors même que vous parlez de sentiments qui vous ont détruit, mais par le biais de ce chant, vous redevenez maître de votre vie et vous refusez d'être traité par le caprice des forces extérieures.
Est-ce que c'est aussi une façon d'entendre des voix plurielles? Ce qui est aussi présent dans le jazz, de ne pas entendre uniquement l'un.
It's true. And they can compete, but at the same time, those voices can blend. And the interesting thing is that each is required to listen to the other one in order to make the next phase. You have to know what your colleague is doing. So you have to pay close attention. It's not like reading from a score, you know, where it's sort of designed. It's, I guess that's what improvisation means, more alive.
C'est vrai. Et ils peuvent rivaliser ces voix, mais parfois, elles se rejoignent aussi, elles se mêlent. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque voix doit absolument écouter l'autre et les autres afin de passer à la phase suivante. Il faut vraiment avoir conscience de ce que fait le collègue et être très attentif. C'est pas comme quand on déchiffre une partition déjà tout écrite. Et de fait, ça aboutit à donner plus de vie.
C'est ce qui nous ramène aussi à Babel, au mythe dont vous parlez dans votre discours du prix Nobel. Vous expliquez que l'accès au paradis était peut-être un peu prématuré, parce que les gens ne prenaient pas le temps de s'écouter les uns et les autres, et que c'est un paradis donc en forme de trompe-l'œil, ne pas s'écouter les uns les autres.
Well, if paradise is one language that everybody knows, of course that's easy. But there are lots of languages, and if you just learn them or pay attention, you will be a bigger, richer, deeper, I think, if you know more languages than if you know only one. So I thought that Tower of Babel myth in biblical one was sort of, you know, dominating.
Le paradis, c'est un langage que tout le monde connaît. Bon, c'est facile, mais il existe beaucoup d'autres langues. Et si vous les apprenez, ou simplement si vous êtes attentif, vous allez vous enrichir, vous serez plus grand. Si vous parlez plus d'une langue, forcément, c'est une richesse. Et donc, ce mythe de la tour de Babel, dans la Bible, bon, je le trouvais vraiment écrasant, trop dominant.
Dans quel sens, Mathilde? Dominating.
It was as though too bad they could have reached paradise if only they had all spoken the same language. Sounds like some countries I know.
Oh, c'était tellement triste, si dommage. Ils auraient pu atteindre le paradis si seulement ils avaient tous parlé la même langue. On dirait un peu le mythe qui guide un pays qui m'est très familier.
Justement, vous avez commencé à écrire Paradise avant le prix Nobel. Ce paradis, c'est une notion très ancrée aux États-Unis, c'est une notion de laquelle vous êtes pour le moins critique. En vous lisant, en lisant ce roman, on a même vraiment le sentiment que l'idée sous-jacente est que le paradis nécessite l'exclusion et que pour cette raison, il semblerait qu'il y ait des paradis qui vaut mieux avoir perdu.
Or stop looking for that. The paradise that I wanted to project was the one that was at the end of the book. She's sitting on the beach and there's trash and there's blue and it's nice and there are all sorts of people coming. The thing about paradise is that it's based on somebody else's not being there. Its nature is to exclude. You cannot have a heaven for everybody. You can only have a heaven if there's a hell for somebody. So I was trying to suggest the heaven, the paradise, the possibility of a paradise where no one was excluded, where it was all right. It's just a glimmer at the end of the book. But both of those communities are under the impression that they have the perfect community. And of course, when they clash, it's death and destruction.
Le paradis que je voulais représenter, c'est celui qui figure à la fin du livre. Elle est assise sur la plage. Il y a là des déchets, puis l'immensité bleue et toutes sortes de gens qui se promènent. Le problème avec le paradis, c'est qu'il est fondé sur le fait que quelqu'un en est exclu. Et c'est ça le rôle de la nature, elle exclut. On ne peut pas avoir un paradis pour tout le monde. On ne peut avoir un paradis que s'il existe un enfer pour quelqu'un d'autre. Donc, je voulais un peu suggérer la possibilité d'un paradis dont personne ne serait exclu. Et c'est un petit peu une petite étincelle à la fin du livre. Mais ces deux communautés opposées sont chacune convaincues qu'elles ont la communauté idéale, parfaite, et lorsqu'elles s'affrontent, cela conduit bien sûr à la mort et à la destruction.
C'est la mort et la destruction qui rappellent aussi Hawthorne et l'escouade des puritains qui lancent un raid sur la colonie de Marymount. On a le sentiment qu'à travers la notion du paradis, c'est toujours le risque du puritanisme qui court. Toni Morrison.
Yeah, well, those utopias are ultimately boring anyway. Because of that, you know, you're setting yourself up to have all the right answers. And of course, if you're easily threatened, if you don't have the right walls, guns, answers, what have you. So it's religion is only part of it. I mean, there are religious conflicts that are severe and bloody. And the history of the world is full of them, but there are others that are equally as bloody. It's, you know, greed, money.
Oui, toutes ces utopies, bon, elles m'ennuient, finalement. Et justement à cause de cela, parce qu'il faut avoir toutes les bonnes réponses, et bien sûr, on se sent menacé si on n'est pas protégé par les bons murs, les bonnes armes, les bonnes réponses. Et la religion n'est qu'une petite partie du tableau. Bien sûr, les guerres de religion sont très graves et sanglantes, et l'histoire mondiale en est pleine. Mais il y en a d'autres qui sont tout aussi sanglantes. Par exemple, la cupidité, l'amour de l'argent.
Dans cette écriture des dangers du paradis, est-ce qu'effectivement l'influence de Hawthorne ou d'autres auteurs vous a conduit? Est-ce que c'était aussi une façon de vous inscrire dans cette réflexion sur le paradis nocif?
I never do that. I'm totally unaware of the lineage of other writers that precede me. Hawthorne was the last thing that was on my mind. I was interested in an all-black town, period. And the fact that there were so many, some were successful. And then I remember seeing an advertisement for people to come to this all-black town, but they had some requirement. If you don't have any money, don't come. So I thought, these are slaves telling other slaves you can't come in. So that was what was interesting to me.
Non, pas du tout. Je ne fais pas ça du tout. Je ne me laisse pas influencer. Je n'ai pas du tout conscience de la lignée d'auteurs qui m'ont précédé. Hawthorne, c'était le dernier de mes soucis. Ce qui m'intéressait, c'était une ville entièrement noire et le fait que parmi ces noirs, beaucoup avaient réussi. Et je me rappelle d'ailleurs avoir vu une publicité pour attirer les gens vers cette ville entièrement noire. Mais il y avait des exigences assez curieuses. Si vous n'avez pas d'argent, ne venez pas. Ah, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Des esclaves qui disent à d'autres esclaves qu'ils ne peuvent pas les rejoindre. C'est ça que j'ai trouvé intéressant.
On a parlé de ce rapport à l'autre destructeur. Après le 11 septembre, vous avez donné un cours à l'université de Syracuse sur Beowulf, qui est un poème épique du XIe siècle, où apparaît le monstre Grendel, qui est incompréhensible et qui veut juste vous manger. Et John Gardner écrit du point de vue de ce monstre. Est-ce que c'était pas là une façon radicale de vous demander comment écrire l'autre et qui est l'autre, Toni Morrison?
I wrote that before 9/11. However, I wrote it while I was thinking about precisely these things, about demonization and foreignness, and I was collecting literature that in fact investigated the process by which we create foreigners, strangers, and aliens. Like, you know, the Beowulf story is the animal versus the warriors, and he's terrible. And the novelist does just the opposite. He takes on the role of the despised demon, Grendel, and refocus from Beowulf to Grendel. And it just seemed applicable, certainly, to publish it after 9/11.
Oui, j'avais écrit cela avant le 11 septembre, mais je l'ai écrit alors que je réfléchissais justement à toutes ces choses, la diabolisation, le fait de se sentir étranger. Et je recueillais toutes sortes d'exemples de la littérature qui explorait le processus par lequel on est amené à créer des étrangers, des aliens, des monstres. L'histoire du Beowulf, c'est l'histoire d'un animal contre un guerrier. Et le romancier fait l'inverse. En fait, il endosse le rôle du démon méprisé, de Grendel. Et on passe de Beowulf à Grendel et bien sûr, c'était tout à fait opportun de publier cela juste après le 11 septembre.
Dans cette réflexion, c'est aussi celle de Playing in the Dark qu'on entend, où vous expliquez combien les Noirs ont déclenché des moments cruciaux, des révélations, des changements dans une littérature qu'ils n'écrivent pas. Vous examinez la place des Noirs, des ombres noires, dans la littérature écrite dans une société mâle et blanche.
I thought and still think and have evidence for major white American writers who didn't write about black people or black things may have included some, but the language is so coded, you can feel their awareness of a population that was overwhelming. How could you not think about it? How could you avoid a slave population altogether? I mean, the Greeks managed to, but they were Greeks. Melville never did. Hawthorne never did. Even Poe, whatever their personal judgments were about slavery and or racism, it's in their work. There's always a reference to it, a need to rub up against it. And it's an invisible presence, but a very powerful one.
Oui, je pense toujours, et j'ai la preuve du pourquoi les grands écrivains américains blancs n'ont jamais écrit sur les Noirs. Mais en fait, leur langage est extrêmement codé. On perçoit qu'ils ont conscience de l'existence de cette population. Et bien sûr, comment auraient-ils pu l'oublier, ne pas l'avoir? Comment éviter cette immense population d'esclaves? Bon, les Grecs ont pas mal réussi ce tour de force, mais c'était des Grecs. Mais en tout cas, ni Melville, ni Hawthorne, ni même Poe, Edgar Poe, quel qu'ait été leur jugement personnel sur l'esclavage et le racisme, ça n'apparaît pas de manière explicite, mais pourtant, on perçoit leur besoin de se frotter à cette notion. C'est en fait une présence invisible, mais très puissante.
Cette présence, elle est aussi celle qui a permis de créer l'américanité, dites-vous. Vous citez Huckleberry Finn et vous dites que son statut d'infériorité a fondé la supériorité blanche. Et que, d'une certaine manière, sans cela, les immigrants se seraient sentis peut-être plus inférieurs encore. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas toucher le fond, puisque le fond était celui des Noirs. Est-ce que c'est cela aussi, pour vous, le rêve américain ?
Yes.
Dernière question, Toni Morrison. Dans votre discours de réception du prix Nobel, vous faites le portrait d'une femme. Parmi les siens, je vous cite, elle est en même temps « loi et transgression ». Alors, est-ce que cette femme, ce ne serait pas un petit peu votre double aussi?
And more transgression than law. But I wanted a figure that could both represent the law and at the same time be open and vulnerable to the young and to their transgression and understand that that was necessary for history and for life.
Je suis plutôt du côté de la transgression que de la loi. Mais je voulais une figure qui représente la loi tout en étant ouverte et vulnérable aux autres, aux jeunes et à leurs besoins de transgression, et que cette personne comprenne que la transgression était nécessaire pour la vie et pour faire l'histoire.
Morrison, merci beaucoup. Ainsi achevons-nous cette série d'entretiens entre les ombres de la littérature américaine. Merci à vous, Toni Morrison, de nous avoir consacré ce temps que nous savons si précieux. Je rappelle que vous êtes l'invité du Musée du Louvre pour un programme de conférences tout au long du mois de novembre, ainsi que pour une exposition dont vous avez dessiné les contours jusqu'au mois de janvier. Une programmation que vous pouvez retrouver sur le site du Louvre. Aux éditions Christian Bourgois sont disponibles les textes de cette aventure muséale, sous le titre et le thème « Étranger chez soi ». Une connivence avec vos éditeurs, Christian et Dominique Bourgois, que je remercie ici. C'était À voix nue par Clémence Boulouk. Merci infiniment à FDR pour la traduction. Et un immense merci également à l'équipe de réalisation.
De cette rencontre de Clémence Boulouk avec Toni Morrison en 2006. À voix nue. Réalisation Dominique Briffaut. Prise de son Marie Le Peintre, Marcel Lebras. Coordination Daphné Abgral. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.